salle des nouvelles.
On va en parler du soleil parce qu'on reçoit nul autre que Jean-René Roy, notre astrophysicien préféré, un astrophysicien de renommée internationale qui publie par les temps qui courent aux presses de l'Université Laval. Bienvenue à l'émission, Monsieur Roy.
Grand plaisir d'être de retour.
Content de vous retrouver, absolument. Et je me demandais, avez-vous déjà enseigné à l'Université Laval?
Oui, pendant presque 20 ans.
Ah bon?
J'étais jeune.
Parce que j'ai fait le tour du CV, puis ça ne m'était pas resté tant. Je pensais que ce n'était pas le cas, puis que c'était une association tardive. Okay.
J'ai quitté en 2000 pour faire d'autres carrières, j'ai beaucoup aimé aussi.
D'autres horizons, on a déjà fait un résumé de ça, on ne se lancera pas là-dedans parce que ça prendrait une partie de l'émission. Puis on a beaucoup de matériel, à commencer par le nouveau livre qui vient de paraître, qui se nomme « La Terre dans l'espace » et en sous-titre « La démesure de l'univers dans de la préhistoire à aujourd'hui ». Et j'ai commencé à lire ça, c'est impressionnant. Et j'aimerais que vous nous disiez d'emblée ce qui est le but du livre. Au bout de ça, je ne me suis pas rendu où j'aurais voulu. Je m'essaie avec quelque chose, une hypothèse. C'est peut-être de faire mesurer le plus possible au lecteur à quel point on est petit. Puis un peu le fonctionnement de notre planète, c'est bien ça?
Oui, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est une histoire de l'astronomie qui a commencé il y a 5000 ans. Et... ce que j'ai voulu faire une histoire, mais j'ai voulu faire un fil conducteur assez particulier. D'ailleurs, beaucoup de gens trouvent cet aspect-là intéressant. Donc, je fais l'histoire en refaisant le cheminement de comment on s'est situé dans l'espace. D'ailleurs, de montrer que la Terre était dans l'espace, c'est une découverte phénoménale qui s'est faite à peu près en 600 avant Jésus-Christ. Ouais. Parce qu'avant, on pensait que la Terre, c'était l'espace, c'était la Terre.
Ouais.
Et c'est un astronome grec qui, par des observations et des déductions logiques, s'est dit « la Terre flotte dans l'espace ». Les étoiles qui se lèvent, qui vont se coucher, qui se relèvent le jour suivant, entre guillemets, sont les mêmes. Donc, elles ont passé derrière comme personne passe derrière un arbre. Donc, quand la personne disparaît derrière l'arbre, on ne pense pas qu'elle réapparaît, que c'est une nouvelle personne.
Mm-hmm.
La personne est passée dans l'espace de l'autre côté de l'arbre.
Alors, on explique le fonctionnement de l'univers, mais aussi l'histoire de cette compréhension-là simultanément.
Oui, donc, et c'est comment ça situait jusqu'à... aux découvertes qui se sont faites des grands moments comme le 17e siècle avec Galilée, Kepler, un peu auparavant Copernic, au 19e siècle avec Herschel qui nous place un peu dans le grand système de l'étoile qui est la galaxie, la Voie lactée.
Ouais.
Et aussi au début du 20e siècle, il y a seulement à peine 100 ans, où on découvre que notre système, la galaxie, n'est pas la seule, qu'elle est qu'une. Parmi des centaines de milliards d'autres. Donc, je refais tout ce cheminement. Et en même temps, je montre qu'il y a une continuité.
Oui.
Et qu'il y a des acquis à chaque étape. On ne met pas tout à la poubelle à chaque étape. En fait, on a un acquis, on a déterminé la dimension du système solaire, et ça reste établi, par exemple, à la fin du 18e siècle.
OK.
Ça n'a pas changé depuis ce temps-là.
Bon.
Les chiffres sont plus précis. Mais... une autre étape, c'est comment, nous, le système solaire, il est où parmi l'ensemble des étoiles?
Voilà.
Une autre étape qui est franchie au 19e siècle.
OK.
Et ça, quand on l'a, on la garde.
Et
continue avec ça. La carte est bonne.
Cette historique-là, ces escaliers-là qu'on monte et les paliers sont très bien étayés. J'ai pu voir un bout. J'y vais quand même avec une question qui me tire l'upine puis que j'ai pas pu consulter dans le livre. Et ça va ainsi. Ben, j'ai commencé à avoir des glimpses. Quand vous parlez de notre système de solaire qui se promène lui aussi dans la galaxie, probablement la galaxie qui se promène dans l'univers, cette compréhension-là, ça, c'est venu à quel moment pour l'humanité?
Que le système solaire se promène...
se déplace aussi.
Aussi dans la galaxie. Ça vient à peu près au 19e siècle et... où il est dans la Voie lactée, à quelle distance du centre de notre grand système et à quelle vitesse, ça ne vient que des années 1920.
Très tardif.
C'est très récent.
D'accord.
Et en fait, les gens qui veulent aller voir un peu tout l'ensemble, je leur suggère finalement d'aller directement au dernier chapitre. Ouais. Donc, je résume tout ça. Où on est dans le système solaire, où le système est dans la Voie lactée, où la Voie lactée est dans l'ensemble des galaxies proches et où l'ensemble des galaxies proches est au loin.
Il y a plusieurs excellents tableaux comme ça où il y a des résumés. Et celui que j'ai pu consulter était... On a pris l'histoire de l'univers puis on l'a ramené à l'échelle d'une année oui. qu'on connaît. Puis j'aimerais qu'on se promène un peu dans ça ensemble. Donc, création de l'univers le 1er janvier.
Oui, à 0 seconde, à une oui.
Et voilà. Pour se rendre à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un moyen temps des fêtes, là, finalement.
Ça, oui. D'ailleurs, le temps des fêtes, là-dedans, c'est des centaines de millions d'années, parce que l'humain n'apparaît que à peine à la dernière minute de ce calendrier.
C'est
de
le 360. Jour de l'an. C'est le réveillon, en fait, qui est animé, c'est ça. Là, finalement.
Ouais. Donc, c'est une belle façon de voir... parce qu'on ne peut pas ignorer la dimension temps quand on veut comprendre l'échelle des dimensions de l'univers. Le temps est absolument intrinsèque. Et c'est difficile pour nous de se représenter des choses qui dépassent la durée de vie humaine de 100 ans. Donc, il faut en quelque sorte trouver des analogies. Et cette analogie du calendrier, l'équivalent de l'histoire de l'univers mis entre un équivalent de 1er janvier et un 31 décembre à 11h59, en quelque sorte, c'est une idée de Carl Sagan. Donc, j'ai repris ce calendrier, je l'ai adapté, je l'ai mis à la cote du jour avec les bonnes données, etc. Et ça nous aide beaucoup. Parce que le sous-titre du livre que vous avez mentionné, Guillaume, « La démesure de l'univers de l'Antiquité à aujourd'hui », la démesure, c'est le gigantisme.
Ouais.
Une des choses qui m'a frappé en refaisant moi-même cette histoire, en consultant toute une série de documents historiques, c'est que l'humain s'est toujours senti petit par rapport à l'espace. Même notre ancêtre néandertal ou Homo sapiens d'il y a 300 000 ans,
okay.
quand il regardait la voie, les étoiles dans le ciel, il se sentait presque écrasé, extrêmement impressionné. Et à chaque époque...
Ça me le fait moi aussi.
mais oui, exactement. Et à chaque époque, même si cet univers que nos ancêtres imaginaient, calculaient, était beaucoup plus petit que celui ouais. qu'on sait être aujourd'hui, on s'est toujours senti petit. On a toujours fait face, réalisé une démesure de nous-mêmes humains par rapport à l'univers. Et ça, cette continuité de cette idée, en montrant que la maison, elle a grandi, je montre que c'est quelque chose d'assez étonnant que l'humain, dès le départ, savait qu'il n'était pas grand-chose.
Ouais. Et c'est bien expliqué aussi l'échelle. On peut saisir vraiment plus. On sait qu'on est petit, mais là, on va savoir un peu plus à quel point en lisant cet ouvrage-là qui se nomme « La Terre dans l'espace ». Et bon, on fait, oui, un tour de l'historique de l'astronomie là-dedans. Et j'avais envie de vous demander ce qui vous a le plus impressionné pour deux époques, c'est-à-dire l'Antique, là, les Grecs, les Romains, ce qu'eux autres ont pu découvrir de plus frappant là, pour une époque si primitive, puis aussi la moderne, qui quand oui. même remonte à il y a quand même un bout de temps où on a eu des outils plus avancés, mais aussi primitifs. Là.
Guillaume, deux choses, une très belle question. Dans l'Antiquité, l'apport grec, moi, continue à impressionner, et c'est comme ça qu'on continue à travailler, comme ils l'ont fait. Et la façon dont je parlais de 600 avant Jésus-Christ parce que c'est l'école de Milet, qui est une ville qui est maintenant sur la côte occidentale de la Turquie. Ça faisait okay. partie de la Grèce antique. Ouais. Il y a trois chercheurs, Anaximène et Thalès de Milet, okay. qui ont en fait, en quelque sorte, introduit ce qui est la science moderne. C'est-à-dire, au lieu, quand il y a les éclairs, le tonnerre, au lieu de penser que c'est les dieux qui se choquent,
ouais.
il dit non, il y a des causes naturelles à ça. On peut expliquer les phénomènes par des approches logiques, de sciences naturelles, de géométrie et de mathématiques. Mm-hmm. Ça, c'est le point qui, je trouve, absolument phénoménal. Dans les temps modernes, une chose qui m'a frappé, c'est la façon dont on se situe dans l'univers à l'heure actuelle.
Ouais.
Et le GPS. Tout okay. le monde a un GPS.
Ouais.
Mais un GPS, comment ça prend ces signaux? Comment ça se place? Mm-hmm. Finalement, ce sont des réseaux de satellites. Il n'y a pas juste le GPS, ouais. il y en a d'autres, qui peuvent se positionner autour de la Terre en toujours en prenant comme référence parce qu'ils bougent, eux autres, dans le temps, une série d'objets extrêmement loin pour s'assurer qu'eux autres, ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre.
Voyez-vous, on ne soupçonne pas ça. Ils servent d'astres pour leur fonctionnement.
Donc, ce sont des radiogalaxies. Ce sont des galaxies qui émettent des signaux radio très, très forts. Nous, on les reçoit faiblement et qui sont très ponctuels. Ils sont tellement loin que sur des périodes même de millions d'années, par rapport à l'un à l'autre, ils ne changent pas. La carte est fixe. Une référence extraordinaire pour nous. Mmh. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que de ces objets, on reçoit des signaux qui ont été émis quand la Terre et le Soleil n'existaient pas.
OK, carrément si vieux que ça.
Nous, on a 4,5 milliards d'années d'âge, le système solaire et la Terre, et les signaux ont été émis il y a à peu près 6, 7, 8, 10 milliards d'années. Okay. Et on les reçoit.
Wow.
Et nous, et eux, ces objets-là, là, ils sont peut-être plus là, ils sont plus les mêmes. Mm-hmm. Donc, la lettre a été envoyée, en quelque sorte, à la poste, eux. La poste n'existe plus, la personne n'existe plus, etc. Et nous, si on essaie de leur répondre, ils recevraient la réponse, s'il y a encore quelque chose, quand on sera plus là.
Voilà.
Donc,
mais
ça, cette partie-là,
c'est ça quand même pour s'orienter
exactement
au sol ici, dans notre petit quotidien.
Entre 200 et 600 radiogalaxies. Et d'ailleurs, qu'on observe régulièrement, une fois par année, par un système de radiotélescope, et on en fait, on en observe certains, toutes les deux semaines, systématiquement, pour essayer de voir comment la Terre est orientée exactement. Parce qu'on a des petites bascules de 20-30 mètres. Mais maintenant, avec le GPS, on peut positionner, même nous, sur la, si vous prenez un peu de temps, à quelques mètres et bientôt
en piéton,
à quelques centimètres.
Et c'est ce qui est à la base de notre futur moyen de motricité, c'est-à-dire les voitures autonomes, etc.
Ouais.
Donc, la seconde où le GPS, exemple, devient moins fiable, là, ça peut créer un paquet de problèmes.
Tout ça qu'il faut toujours suivre les petites bascules, les petits hoquets de l'axe d'orientation de la Terre, par rapport au système de satellites qui, lui, est en quelque sorte fixe, même si chaque satellite bouge par rapport à la... Donc ça, cette partie-là, je trouve ça fascinant. On reçoit des signaux pour s'orienter de choses qui ont été... d'objets qui ont émis leur signal quand nous, on n'existait pas.
Votre ouvrage est rempli de choses extraordinaires comme ça, mais là, j'ai demandé le summum. Il y a peut-être des choses qui se rapprochent, qui vont être étonnantes pour le lecteur. Je rappelle le nom, c'est « La Terre dans l'espace » aux presses de l'Université Laval. Et peut-être un petit dernier mot avant qu'on passe au prochain sujet, qui est évidemment lié là, avec la tempête solaire dont tout le monde parle, ou pas, là, vous nous corrigerez, mais avant, votre livre, en quelques mots, c'est votre... Combien-t-il?
Je sais pas trop, là. Surtout que j'en ai qui sont traduits maintenant en persan, imaginez-vous. Des collègues iraniens de Téhéran et de Hong Kong.
Wow! Mais celui-là, j'ai dit accessible quand on se parlait hors d'onde, et peut-être un de vos plus accessibles. Pas grand public, c'est là que vous m'aviez repris. Mais moi, je pense que n'importe qui peut se procurer ça et apprendre des choses. Pas obligé de lire d'un bout à l'autre. Parlez-nous de quelques mots là-dessus, sur le livre en soi.
En fait, j'aime pas le terme vulgarisé, Guillaume, parce que je trouve qu'il y a une idée de simplification et je n'aime pas. Je suis toujours un professeur dans l'âme.
Ouais.
Et j'aime expliquer.
Vous demandez un certain seuil de compréhension.
Je veux amener les gens à vraiment, c'est quoi la vraie viande, entre guillemets? Bon, même pour les végétariens, ils comprennent ce que je veux dire. Mais c'est ça mon objectif, c'est que je dirais que je vais au-delà, par exemple, de livres du niveau comme ceux que mon collègue Hubert Reeves écrit, qui lui, en fait, veut rejoindre beaucoup de gens. Moi, j'essaie de rejoindre des gens, justement, qui ont lu Hubert Reeves. Ils disent, moi, j'en veux un peu plus. Je veux mordre quelque chose de plus consistant. Et c'est ce niveau que j'essaie de faire. Et je refuse d'aller un peu dans la simplification. Il y a peut-être une simplification.
Mais ça devient enfantin à un autre degré aussi, à un moment donné.
On a une belle littérature, d'ailleurs, au niveau de base. Moi, je sais, et les gens m'ont demandé, Jean-René, écris-nous donc quelque chose qui sent être pour les grands spécialistes. Moi, je sais c'est quoi des maths, je connais un peu de physique, je connais un peu de chimie, je connais même un peu d'histoire. Écris-moi quelque chose de ça. Et moi, mon objectif principal, là, j'écris pour moi.
OK.
Ah bon? Il faut, si je me satisfais pas, je ne pourrais pas sentir que je vais satisfaire les lecteurs et lectrices éventuels.
Pour autant de recherches, il faut quand même avoir une motivation de volonté de trouver ces informations-là. Là.
Mais si je peux me permettre, le background d'enseignant que vous avez vous permet, sans vulgariser, mais c'est votre façon d'être capable de livrer l'information, en fin de compte.
Parce que je me suis fait, justement, en enseignant, ceux qui nous apprennent le plus, ce sont nos étudiants. Une bonne classe d'étudiants, ils laissent rien passer.
Besoin d'un bon communicateur.
Et on va comprendre quelque chose, vraiment, quand on l'enseigne. Mm-hmm. Moi, beaucoup des matières, je les ai apprises à l'université, mais c'est quand j'ai eu à enseigner des concepts, même élémentaires, que j'ai compris.
Okay. Et c'est accessible quand même. Moi, je pense qu'on peut s'initier. Et ça a pris combien de temps à produire?
Ça,
vous ne m'aviez pas parlé de ça. OK, c'était déjà en construction.
Oui, ben vous savez, la pandémie nous a un peu réorienté. Et puis, c'est un ouvrage que j'avais publié en 1983. Ici, je donne des secrets.
Wow!
Qui a servi justement d'ouvrage à l'université d'enseignement pour l'introduction à l'astronomie. Okay. Et on me demandait depuis des années, Jean-René, une nouvelle édition. Puis je savais, c'est un ouvrage monumental, l'original. Mmh. J'ai dit, je vais reprendre la partie historique. Mmh. J'en ai fait une refonte complète.
D'accord.
J'ai obtenu des documents extraordinaires avec l'aide d'archivistes et de bibliothécaires de grandes universités, de grands centres de recherche qui, ces temps de la pandémie, étaient disponible et m'envoyait toutes sortes de choses pour écrire 10 livres.
Okay.
Et ça a été extraordinaire comme expérience de remettre à jour. Et ce livre-là est un nouveau livre. Et certains qui connaissent l'ancien vont peut-être y retrouver des petites choses qu'ils avaient vues. Mais ici, elles sont présentées là, comme sous une nouvelle administration.
En même temps, si le livre date de 1983, généralement, les bons lecteurs aiment aussi la qualité de l'objet. Là, fait que ça peut valoir la peine de se procurer « La Terre dans l'espace » de Jean-René Roy aux presses de l'Université Laval. Maintenant, le sujet qui est sur beaucoup de lèvres.
On utilise le terme un sujet chaud.
Et,
oui.
Et beaucoup de blogs sur Internet, il se dit plein d'affaires à tort et à travers sur des fluctuations dans le cycle solaire. Est-ce que je me prononce mal? On parle de problèmes électriques possibles prochainement dus à des tempête solaire?
Oui. Bon, de toute façon, j'ai pas entendu parler de ce que vous parlez. Donc, ce qui se passe, Guillaume, c'est qu'on est en démarrage, entre guillemets, du nouveau cycle solaire. Okay. Le numéro 25, parce qu'on les compte.
Des cycles solaires.
Oui, de 11 ans. Okay. Ces cycles sont finalement caractérisés du point de vue observationnel par ce qu'on appelle des taches solaires.
Ouais.
Ce sont des ondes sombres à la surface du Soleil qui peuvent atteindre des dimensions très grandes, de centaines de milliers de kilomètres.
C'est des éruptions, ça?
Non, pas encore.
Okay.
Donc, ce sont des ondes qui sont des ondes de champ magnétique très, très fort. 1000, 10 000 fois plus fort que le champ magnétique terrestre qui oriente nos boussoles et dont on se sert pour un paquet de choses. Donc, ces ondes d'évolution de champ magnétique sont particulières parce qu'elles évoluent, elles se renforcent et elles sont aussi sujette à des espèces de flottements parce que la surface du Soleil, c'est une...
Il n'y a rien de fixe.
Tout bouge, ce sont des gaz. Mmh. Et ce qu'il va faire, c'est que ça va entraîner les mouvements et il y a des ondes, des polarités négatives et positives. Et comme le champ électrique, si vous mettez deux fils positifs et négatifs ensemble, vous savez ce que ça fait. Ça fait des flammèches. Normalement, ce qu'on fait, on met une lumière entre les deux, ça fait une résistance et ça fonctionne.
Okay.
Donc, dans le Soleil, ce qui peut se produire, c'est que les ondes de champ magnétique de polarité opposée ou à la même d'une zone champ magnétique positif-négatif, il peut y avoir des zones de polarité opposée qui émergent là-dedans comme des petits volcans.
D'accord.
Donc, ça va faire, à ce moment-là, ce que vous avez mentionné, des éruptions. Donc, des espèces de court-circuit gigantesque. Il va y avoir éjection de gaz très chaud et de particules.
Des neutrons, donc.
Les neutrons, c'est une autre affaire. C'est plutôt des réactions nucléaires qui vont avoir lieu parce
mais
que
ce
les
rejeté,
températures permettent. Ouais, ce sont des protons et des électrons.
OK, c'est ça.
Donc, c'est du. Ça, c'est de l'électricité.
Et quand on parle de tempête solaire qui nous affecte ici, c'est des électrons.
Des bouffées qui arrivent. Peut-être 40 heures après l'explosion sur le Soleil qui nous arrive, parce qu'elle voyage à une vitesse modérée, entre guillemets, et elle frappe le champ magnétique terrestre. Bon. Et le champ magnétique terrestre, lui, c'est un plasma qui arrive, donc c'est comme un ballon déformable. Donc là, ça se met à faire, en quelque sorte, pousser, osciller le champ terrestre. Donc le champ terrestre qui va, le champ magnétique terrestre va osciller, va générer des courants électriques.
OK.
OK. Courant électrique dans la haute atmosphère où évoluent nos satellites.
D'accord.
Et dans la croûte terrestre.
Ah, jusqu'à la croûte.
Jusqu'à la croûte. Et
donc,
ça.
On va être traversé par ça carrément
oui,
ici.
Oui. Et ce qui se passe, c'est que ça génère des champs magnétiques, des champs électriques continus. C'est comme, je sais pas, moi, j'ai un vélo avec un aimant qui tourne, puis il génère du courant électrique, je fais une petite lumière qui est. Donc ici, ça va pendant quelques heures, ça va générer des courants électriques. Et ce qui arrive, en général, c'est pas trop grave, sauf qu'on a des lignes de transmission sur des milliers de kilomètres.
Ben oui.
Ça, le champ magnétique, il aime ça parce que là, il peut passer du courant sur des grandes distances.
Il s'en sert, autrement dit.
Il s'en sert. Oh. Donc, ça met une puissance en courant continu qui n'est pas du courant alternatif.
Okay.
Et là, il peut avoir suffisamment de courant additionnel qui n'est pas du bon type pour faire sauter la ligne. Et comme tu mentionnais, en 89, ici, on a perdu l'électricité à cause de ça pendant. Donc, aujourd'hui, on a des systèmes d'alerte. Et ce qu'on va faire, on va baisser les tensions en prévision de ce qui va arriver.
Donc, on est un peu paré à ça. Mais il peut y avoir des plus gros événements que d'autres. Là, on parlait de cycle de 11 ans. Est-ce qu'il y a un sur-cycle plus... un cycle de cycle plus grand? Parce que j'entends beaucoup parler de ce qui s'était passé avec le télégraphe. Je pense que c'était fin des années 1860.
Oui.
Et là, c'est maintenant qu'on serait rendu pour ça.
Oui. En fait, on ne croit pas qu'on ait un cycle aussi fort. Donc, le cycle est mesuré, en fait, par le nombre de tâches, en gros. Et il a commencé il y a à peu près un an. Et là, le nombre de tâches est plus élevé que le pronostic. Donc, est-ce que c'est un cycle qui, finalement, ne sera pas plus intense que l'autre, mais qui monte plus vite?
Okay.
Donc, qui est un peu comme en avance. Mais il y a des modèles qui ont prédit qu'on allait avoir un cycle au moins beaucoup plus intense en nombre de tâches, en nombre d'événements, comme on vient de décrire, que le dernier de 24, qui était plutôt tranquillo. Donc ici, on s'attend à un maximum où la probabilité d'événements, comme vous craignez, arriverait à peu près en 2024. Au lieu de 2025. Et la période du max, il y a beaucoup d'événements, dure à peu près 3 ans, 4 ans, sur la période d'un cycle complet qui est à peu près 11 ans.
Si, petite question, si, parce que, le soleil tourne sur lui-même, la Terre tourne sur elle-même, si ces manifestations ont lieu, je ne sais pas dans l'axe de la rotation de la Terre, est-ce qu'on l'évite? Est-ce qu'on est béni?
Ah, si c'est un de mes étudiants, je dirais que c'est brillant, ça.
Merci.
Enfin, imaginez que, vous voyez des tourniquets qui arrosent la pelouse.
Oui.
OK? Donc, imaginez le soleil qui a une éruption. Mais le soleil tourne. Donc, c'est ça, quand faire la prévision, on va dire, bon, il faut que la tâche ou le lieu de l'explosion soit à bonne place et on calcule quelques jours plus tard. Ça part et ça courbe dans l'espace exactement comme le jet du tourniquet, entre guillemets. Et ça peut nous éviter. Généralement, on se fait rentrer dedans un certain nombre de fois pendant un cycle solaire. L'autre chose, pour revenir, parce que la préoccupation, elle est plus grande qu'elle a été avant. Les systèmes de lignes de haute tension, vous dites, sont mieux protégés. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est la multitude de satellites qu'on a maintenant dans l'espace et desquels on dépend.
Oui.
Donc, et autre chose, leur électronique est énormément plus fragile
plus sensible.
Que les circuits électroniques sont microscopiques. Tout est pacté. Donc, un électron de haute énergie peut zapper toute une partie d'un circuit. Donc, et ça peut mettre tout le système à terre. Je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé avec Facebook hier, là. Mais donc, ça peut... Notre système est plus fragile. D'autre part, on a beaucoup plus de satellites pour des backups. Mais ça va être intéressant, les prochains cycles, leur impact possible sur les infrastructures satellitaires dont on dépend encore beaucoup plus qu'avant. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est bon. À voir. Mais les gens qui s'énervent maintenant, là, c'est un peu prématuré.
Mais il y a une tendance à aimer ça, se compter des peurs comme humain.
L'Halloween est dans quelques semaines.
Ouais, non, on va être cancellé. C'est de même que ça avait commencé. Et voilà. OK, on a une meilleure vision.
Donc, restons calmes. Oui. Et il y a des effets. Et juste revenir à un effet sur Terre, il y en a, on pourrait faire une émission complète là-dessus.
Je pense que oui. Puis là, ça me fait penser au réchauffement climatique aussi.
Oui, mais ça, c'est un autre encore en plus. Ouais. Mais l'autre chose, la génération de courant a des effets aussi, comme pendant les années 70, où je me souviens, je faisais ma thèse de doctorat justement sur les éruptions solaires. Et y a toute une histoire derrière ça. Et il y avait la guerre au Vietnam. Et il y avait des champs de mines dans la mer.
Okay.
Et ce qui est arrivé, il y a eu une zone pendant une grande éruption, une tempête géomagnétique, où il y a un courant qui était généré non pas dans la croûte terrestre, mais dans l'eau de mer. Et ça a déclenché des centaines de mines que les Américains avaient mis pour faire sauter des bateaux vietnamiens. Donc, c'est pas ça qui a fait perdre la guerre aux Américains. Là. Mais c'est juste pour vous indiquer, oui, il peut avoir des impacts dans la vie courante. Ouais. Et nos systèmes auront des tests intéressants si c'est un cycle beaucoup plus intense que les précédents.
Et voilà, ça fait le tour. Jean-René Roy, un grand merci. C'est un plaisir comme d'habitude. On doit se laisser là-dessus. On a pris du retard. Pendant qu'on se parlait, j'ai cancellé une autre chronique.
Oh, mes excuses. Ah, ben
c'est, mes excuses. C'est pas vrai, ça a été remis. Alors, il n'y a pas de stress là. Mais c'est merveilleux. Et merci beaucoup. Je redis le titre du livre qui vient de sortir. La Terre dans l'espace, la démesure de l'univers et de la préhistoire à aujourd'hui. Presse de l'Université Laval. Merci encore. À bientôt.
Grand plaisir.
On s'arrête quelques instants. Les paupiètes, on revient avec une chronique géopolitique de Yann Rochdy.
Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures.